Chapitre 7, les dispositifs particuliers.
Comment survivre à poil, au ridicule, en milieu hostile?
À propos de garde-fou, sers-moi de ton absinthe si ça ne te dérange pas. Ah, bah, c'est fait, je suis servi. Pof, allez, hop, on envoie un coup. Pour que ceux qui, dans le besoin, ne soient pas laissés sur le bord du chemin pour des raisons financières, il existe effectivement des dispositifs mis en place par l'État. Premièrement, la Sécu prendra en charge à 100% tes dépenses. Hors participation forfaitaire et franchise médicale, tu sais, la livraison de pizza que l'on paie, quoi qu'il arrive, ou presque. Renvoyé chapitre précédent. Si tu as atteint une affection de longue durée, ALD, dite exonérante, c'est-à-dire une maladie dont la gravité ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Quand je dis 100%, c'est la pizza complète, hein, pas de plus garniture. Au départ, dans les années 50, il n'y avait que 4 pathologies classées ALD. Tuberculose, maladie mentale, un peu en vrac, cancer et poliomyélite. Désormais, il y a une trentaine exonérantes, par exemple le diabète, la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, etc. Il y en avait jusqu'en 2011, certaines qui, comme l'hypertension artérielle, mais ce n'est plus le cas, n'étant plus considérée comme une pathologie, elle a été retirée par décret. Je sais que tu vas poser une question, alors je réponds d'avance, oui.
Tu es dans mon esprit maintenant.
Bah, t'allais me demander s'il y a des ALD non exonérantes.
Oui, c'est vrai.
Ben, je réponds oui. Ce sont des affections qui nécessitent une interruption de travail ou des soins continus d'une durée prévisible d'au moins 6 mois, mais qui n'ouvrent pas droit à l'exonération du ticket modérateur. En revanche, si tu es enceinte de plus de 6 mois, c'est exonérant et tu es remboursé à 100% à compter du 6e mois.
C'est pas un peu saugrenu de compter la grossesse dans les affections?
Affection, c'est vrai, c'est un mot étrange. On en réclame sous forme de tendresse de l'affection, mais on la redoute quand c'est une fièvre, par exemple. Ici, c'est le second sens, qui veut dire que tu es affecté, tu vois. C'est une altération de fonction, mais sans précision des causes. C'est donc ultra vague, comme c'est un peu comme traumatisme crânien. Ouais, c'est un traumatisme crânien.
Non, mais c'est pas clair.
Quand tu fasses une chiquenaute sur la tête ou que tu te casses un platane avec ton crâne, dans tous les cas, c'est un traumatisme crânien. Bon, j'en reviens à la grossesse. Oui, ça affecte au sens où tu es plus lourd. T'as parfois des fièvres, des vertiges, des nausées, la gerbe, et il n'est pas rare d'en mourir, même en France, il n'y a pas si longtemps, c'est encore le cas.
Ok, je pige, mais c'est bizarre de la retrouver parmi les affections longue durée.
Oui, difficile même avec un plancher pelvien en chaîne massif de retenir le polychinelle plus de 9 mois et une semaine, mais tu n'as pas besoin d'être enceinte, ou ça te fait rire ça, ou d'avoir une sale pathologie invalidante pour être exonérée, tu l'es aussi quand tu es dans une situation précaire ou avec de faibles revenus. C'est magique ça, non? Je pense que c'est ce qui nous distingue le plus des autres animaux. Il y a des dispositifs particuliers comme la PUMA, la CMUC, la CS ou l'AME.
Allez, je prends des notes.
Ouais, alors si on reprend notre image de la pizza, t'as compris que ton régime de base sécurité sociale prenait en charge la pâte. Seulement, certaines personnes comme les SDF, les nomades, les roms, les cynités, qu'on appelait encore il y a peu les manouches, ne remplissent pas les conditions pour être affiliés à l'un des régimes de base existants. T'as révisé, pour mémoire, le régime général, le régime agricole, le régime social des indépendants et les régimes spéciaux. Mais les rentiers non plus, figure-toi.
Comment ça, les rentiers? Ceux qui ne travaillent pas et ne vivent que de rentes?
C'est ça, des rentes et des revenus de leurs investissements. Alors, pour ne pas laisser ces gens dans un no man's land sanitaire, il existe un dispositif qui n'existait pas il y a 20 ans, que Martine Aubry a repris de l'association ATD Carmonde, et qui, jusqu'en 2016, s'appelait CMU, pour couverture maladie universelle. C'est pas rien, cette CMU. La CMU de base offrait l'accès à l'assurance maladie, payer la pâte à pizza pour toute personne de nationalité française ou étrangère, résidente en France depuis plus de 3 mois de manière stable et régulière, avec ou sans domicile fixe, et qui n'était pas déjà couverte par un régime de sécurité sociale, sauf les résidents du département français de Mayotte, ainsi que ceux de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon.
Mais putain, c'est stupéfiant. Tu m'as dit que Mayotte était un endroit où il y a beaucoup de besoins.
Oui, je veux pas minimiser Saint-Pierre et Miquelon, mais ça représente environ 6 000 habitants. Je les aime bien, hein, je les salue, mais c'est pas la question. Alors que pour Mayotte, qui fut un protectorat français dès 1841, donc avant le rattachement à la France de Nice et de la Savoie, donc c'est français avant Nice et de la Savoie, la population visée par cette inégalité sociale avec la métropole est bien plus grande, autour de 212 000 personnes, sans compter la centaine de milliers de ressortissants des îles voisines d'Anjouan et de Morélie, considérées comme illégaux. Je parie une tournée que si on a refusé la CMU à Mayotte, c'est pour éviter que trop d'Anjouanais viennent y soigner leur panarie, selon l'argument de l'appel d'air. Soignes-en 3, il y en a 400 qui arriveront à la nage. Pourtant, peu se souviennent qu'Anjouan était un territoire français jusqu'en 1974. La situation est tout bonnement invraisemblable. Pas de CMU donc, mais aussi plus grand désert médical de France, probablement toute catégorie de désert confondu, avec 98 médecins pour 100 000 habitants, je l'ai dit tout à l'heure, contre 339 en métropole, et c'est déjà pas beaucoup. Et je te parle pas des spécialistes, il y en a, accroche-toi, 22 sur l'île, dont 17 pédiatres, pas de dermato, un seul cardiologue, un seul gastro-entérologue. Côté osto, un seul centre hospitalier. En comparaison à La Réunion, où tout n'est déjà pas rose, loin de là, on en compte 9 tout de même pour 844 000 habitants. Et ça a suffi à soulever des émeutes au printemps 2016, portant pour slogan l'égalité réelle. Alors Mayotte, t'imagines? Bon, bah, C'est vrai que ça ne serait que légitime qu'ils aient des droits équivalents aux nôtres. Même leur RSA est la moitié de ce que peuvent toucher les métropolitains.
Tu m'arraches quand même des larmes, là. J'ai vu les images des Kwasa Kwasa, les canots de pêche à fond plat qui embarquent des dizaines d'anges rouennais pleins d'espoir, lesquels finissent souvent par nourrir les poissons du canal du Mozambique.
Ouais, comme l'a déclaré avec beaucoup de cynisme Emmanuel Macron début 2017, là, début juin, le Kwasa Kwasa pêche peu, il amène du comorien, c'est différent. Puissent ces lignes dessiller les yeux des métropolitains qui bien souvent ne savent pas que Mayotte est un département du pays. En 2016, la CMU a changé de nom et s'est vue dénommée PUMA. Protection universelle maladie. Elle est désormais résidentielle. Pour en bénéficier, il faut résider en France de manière régulière, donc pas en situation illégale, stable depuis au moins 3 mois sans interruption, avoir la nationalité française ou être titulaire d'un titre de séjour, ou au moins avoir entamé des démarches pour en obtenir un.
Et les personnes en situation irrégulière, on les laisse crever ?
Certains aimeraient bien. Nous ne sommes pas là pour endosser toute la misère du monde, disent-ils. Et pourtant, moralement, on devrait être, vu l'exploitation qu'on a orchestrée depuis des siècles un peu partout et qu'on maintient encore. Avec ce qu'on doit au Niger, à la Côte d'Ivoire, à Haïti, à qui on a extorqué des millions de francs or en 1825, au titre de remboursement de la spoliation des colons et autres. T'imagines ? Dédommager des envahisseurs esclavagistes pour la perte que représente pour eux la liberté de leurs esclaves. Un truc. Enfin, je me dis qu'on pourrait leur offrir pendant 2 siècles nos services publics. Bon, mais bon, je m'égare. Il existe pour eux un dispositif nommé l'aide médicale d'État, l'AME, pour ceux qui sont en situation irrégulière. C'est l'héritière d'une vieille aide, l'assistance médicale gratuite, l'AMG, créée par une loi de 1893. L'AME, donc, permet aux malades les plus pauvres, malades, vieillards, infirmes privés de ressources, de bénéficier d'un accès gratuit aux soins de santé. L'assurance maladie prend en charge l'intégralité des frais de santé pendant 1 an, renouvelable, sous couvert que la personne réside en France de manière stable, plus de 3 mois, même si c'est de façon irrégulière, au sens qu'en donne la réglementation française.
Mais c'est bien ça ! Pour tout migrant, même sans papier ?
Oui, sauf...
Déconne pas à Mayotte ?
Bingo ! La ministre de la Santé, Marisol Touraine, confirmait en novembre 2013 « Non, il n'y a pas de projet d'extension de l'aide médicale d'État à Mayotte. »
Oh putain !
Quelle en était la raison ? On la doit à Claude Guasguen, député Les Républicains du 16e arrondissement de Paris, le même qui soutient ses électeurs dans leur refus d'accueillir une structure d'aide pour SDF dans leur beau quartier, tu te rappelles de ça ? Il a réclamé un rapport relatif à la prise en charge des dépenses de santé pour les étrangers en situation irrégulière sur Mayotte et à l'impact financier pour l'État d'un déploiement de l'aide médicale de l'État dans cette zone. Alors Dixit Guasguen, je cite, « Compte tenu de la forte immigration illégale, en partie attirée par la qualité du système de soins, on peut légitimement craindre que les dépenses d'AME ne soient particulièrement importantes. » Fin de citation.
Ouais, mais peut-être que c'est juste une erreur de formulation.
Oh, tu es charitable, mais que non, oh, bonne âme. Un autre député de la même famille politique que Guasguen, de Marseille, cette fois Dominique Tian, a pu dénoncer en pleine Assemblée nationale que l'AME était un... J'ai senti que tu allais vous faire un petit jeu de mots là, mais tu l'as pas fait. Dominique Tian a pu dénoncer à pleine Assemblée nationale que l'AME était un aspirateur médical pour des filières d'étrangers ou de filières chinoises souhaitant bénéficier d'une procréation médicalement assistée ou de chirurgie esthétique. Et même de cure thermale, vous rendez compte, mesdames et messieurs, de cure thermale. D'abord, je conchis complètement cette façon de présenter les choses. Imagine-toi en train de crever dans un bidonville, la bouche pleine de vermine, d'une maladie qui serait bénigne ailleurs, et tu sais qu'en face, à 70 bornes, on peut te soigner, te sentirais-tu seulement attiré, tu vois ? La remarque de Tian montre surtout sa propre incompétence. La procréation médicalement assistée, la PMA, qui n'a rien d'un tourisme, et les cures thermales sont exclues du panier de soins de l'AME par le décret de 2011. La chirurgie esthétique n'est même pas non plus prise en charge. Qui veut noyer son moustique ? L'accuse du chikungunya. Bon, c'est même pas drôle. Pour ce qui me fout en boule, mais moi ce qui me fout en boule par-dessus tout, en vrai, c'est la petite hypocrisie. Tous les rapports sur le sujet vont à l'encontre de leurs propos. Notamment un, le rapport parlementaire de 2011 qui expliquait, je lis, hein, l'idée d'un dispositif trop généreux ou susceptible d'encourager davantage de flux migratoires ou de tourisme médical a été écarté. En effet, si le nombre de bénéficiaires de l'AME a bien augmenté de 191% en Guyane de 2002 à 2010, les analyses montrent que ce n'est pas le dispositif qui a attiré les bénéficiaires, mais bien l'éclatement d'une guerre civile au Suriname, pays frontalier de la Guyane, qui a poussé ces malheureux sur les routes. Cette guerre s'est traduite par des flux migratoires massifs vers le territoire guyanais, et puis précisément vers la commune de Saint-Laurent, qui n'est séparée du Suriname que par le fleuve Maroni.
Il n'y a pas de quoi se mettre en boule, si. Ils n'ont pas tenu compte de ce rapport parce qu'ils ne l'avaient probablement pas lu. Ne me dis pas que...
Le rapport parlementaire, il est co-signé par Claude Guasguen lui-même. Bref, tout n'est que comptable, tu vois. C'est que comptable dans ces façons de réfléchir et de présenter les choses. On pourrait se dire que plutôt qu'un coût, c'est un investissement au fond de sauver la santé des gens. Tu te rappelles, garantir un accès aux soins pour les autres et les autres, on l'a déjà dit, c'est ta mère, ton beau fleuriste, une obscure inconnue de je ne sais où, qui est pourtant la pote d'un mec qui est copain avec le meilleur neveu de ton cousin qui s'est marié avec une mahoraise. De toute façon, si tu penses que le moindre habitant de Mayotte ou d'Anjouan est relié à toi par une chaîne de 4 ou 5 personnes...
Et combien elle coûte cette AME ?
Ah bah j'avais les chiffres de 2013, elle a concerné cette année-là 282 000 personnes sur l'ensemble de la France pour un budget total de 744 millions d'euros, avec un montant total de fraude de 139 000 euros seulement, chiffre tiré d'un rapport présenté en octobre 2014 à l'Assemblée.
Ok, qu'est-ce se passe-t-il pour ceux qui sont de passage ou qui sortent des conditions définies?
Ben, ils peuvent toujours bénéficier d'une prise en charge de soins urgents à l'hôpital public, certainement pas dans les cliniques privées, ils seraient jetés, ça c'est évident. Ils recevront les soins dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à l'altération grave et durable de l'état de santé, les soins destinés à éviter la propagation d'une maladie à l'entourage ou à la collectivité, tous les soins d'une femme enceinte et d'un nouveau-né, et les interruptions de grossesse volontaires ou médicales, ainsi que tous les soins dispensés à des mineurs. Ce dernier point est glauque. C'est en ce moment le festival des techniques pour détecter l'âge au plus près, pour savoir si tel ou tel migrant a bien moins de 18 ans et donc peut recevoir les soins. Les méthodes dites de maturité osseuse ou dentaire, par exemple, ne sont pas précises à 2 ou 3 ans près. Donc si tu as 18 ans et un jour, coup de tête balayette, t'as droit à rien.
Bon, revenons à nos pumas, nos moutons. Enfin, la puma, c'est un dispositif qui te paie, à toi qui es dans la dèche, la pâte à pizza sans que tu y aies cotisé. C'est bien ça.
Ah, bon, pas tout à fait. Le dispositif paie la pâte à pizza. Mais je n'ai pas dit que tu ne cotisais pas et je n'ai pas dit que tu étais dans la dèche. Sous certaines conditions, tu dois payer une cotisation correspondant à 8% de tes revenus. Un rentier, je te l'ai dit, entre dans les conditions d'attribution de la Puma. Il est normal qu'il cotise parce qu'il a a priori des ressources, même s'il ne travaille pas. En réalité, pardonne-moi, mais ce sujet est si complexe qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits.
Merci. Et la garniture alors? Ils font comment ceux qui sont fauchés?
Pour la garniture, il y a un dispositif qui permet d'aider les personnes avec de faibles ressources. C'est la CMU complémentaire, dite CMUC, qui est une complémentaire santé gratuite. Dans ce dispositif, l'assurance maladie prend en charge la part complémentaire des soins remboursables à hauteur de 100% des tarifs maximum fixés par l'assurance maladie. Attention, tu te souviens de l'histoire des
Ouais.
100%, hein? Gaffe, ça ne veut pas dire que tu es remboursé de tout, hein? Remonte au chapitre 5, là-bas. Le parcours de soins, c'est le nom du chapitre, hein, si tu veux une séance de rattrapage. Et ainsi que des frais de prise en charge spécifiques pour les soins dentaires, l'optique,
Des forfaits, tu veux
les
dire.
audioprothèses. Voilà. En somme, la Sécu te couvre à 100%. Elle paie ta pizza, tu n'as pas à faire l'avance de frais. Et le forfait d'un euro, tu te souviens, la livraison de pizza, eh ben, c'est pris en charge aussi. Et les médecins conventionnés, secteur 1 et 2, sont obligés d'accepter de te soigner et sont tenus de respecter les tarifs de base reconnus par l'assurance maladie. Attention, les autres non, ils peuvent t'aligner quand même si tu es sous CMUC. Hein.
Comment ça, obligé de te soigner?
Ben, comme c'est moins rentable pour un médecin de secteur 2, car il lui est formellement interdit de pratiquer des dépassements d'honoraires, on a vu fleurir des petites affiches dans les cabinets. CMU non accepté.
C'est vrai
Ou alors
ça.
les secrétaires demandent innocemment au téléphone si on bénéficie de ces dispositifs pour pouvoir nous indiquer poliment qu'il n'y a plus de rendez-vous disponible avant. Ah bah c'est bête, il n'y a plus de. Ah bah, bah y a rien avant la cinglingue, tu vois. Mais tout ça, c'est théoriquement, c'est interdit.
C'est vraiment bien ces dispositifs.
Ben oui, pas mal, oui. En vrai, pour bénéficier de la CMUC, il ne faut pas gagner plus de 727 euros par mois. Ou 8 723 euros par an, tu vois. C'était en 2017 pour une personne seule. Ou 11% de plus si tu es d'outre-mer.
Et si tu gagnes 730 euros par mois?
Donc 3 euros de plus que. Bah, non, t'es pas
Ouais.
grillé en fait. Non,
Ok.
parce que t'as un deuxième dispositif qui prend le relais, l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé, l'ACS, qui vise à éviter les effets de seuil créés par le dispositif de la CMUC. Les gens éjectés, car dépassant le plafond de quelques euros si tu préfères. Alors de quelle façon? Bah, en aidant financièrement ceux dont les ressources sont à peine supérieures au plafond CMUC à se payer une complémentaire santé comme monsieur, madame, tout le monde. Dans ce dispositif, tu en choisis une dans une liste préétablie, tu la payes et tu reçois un chèque pour compenser une partie de ton adhésion. L'autre possibilité aurait été de proposer des mutuelles spécifiques pour les pauvres, mais ça aurait été discriminatoire.
C'est une bonne idée, ça, c'est altruiste.
Ah ben, je suis pas aussi enthousiaste que toi. Je vois dans ces mesures un moyen sournois de faire accepter un désengagement progressif de la Sécu et un accroissement de la part complémentaire.
Attends, je veux bien que tu répètes là.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tout le monde aura adhéré à une complémentaire santé de gré ou de force, il sera facile de procéder à un déremboursement sécu de soins en argumentant que de toute façon les patients sont tous couverts par une complémentaire. Personne ne trouvera plus rien à redire. Quand je dis de gré ou de force, c'est qu'il faut y mettre du sien pour échapper au complémentaire entre l'obligation d'adhésion par l'entreprise depuis 2015 et les dispositifs utilisant de l'argent public pour financer l'adhésion de ceux qui n'ont pas d'employeur. C'est une technique bien connue des psychologues qu'on nomme le pied dans la porte. Si tu demandes à quelqu'un s'il est favorable au fait de privatiser notre système de santé, il est très probable que sa réponse spontanée soit ben non, bien sûr. Mais si tu y vas par petites touches, une participation forfaitaire par-ci, une petite franchise médicale par-là, et que tu enrobes le tout dans un discours orienté trou de la sécu, charge, ben tu fabriques le consentement à une santé privatisée. Finalement, au lieu d'une pizza, tu prends des biscuits apéro périmés, discrètement tu les mouilles et tu leur donnes une forme plate, puis ni vu ni connu, tu mets un arôme de tomate, une olive rance dessus et puis tout le monde s'en contente.
Alors attends, donc selon ton raisonnement, si je te comprends bien, comme on n'a pas l'impression de la payer, on laisse augmenter progressivement la part de garniture au détriment de la quantité de pâte. Le risque étant à terme qu'il n'y ait plus de pâte et qu'on ne puisse plus du tout se soigner si on n'est pas en mesure de payer une importante garniture.
C'est pas nouveau. L'idée d'un système à 3 étages avait déjà été évoquée par le rapport Chadelat, Commission des comptes de la Sécurité sociale 2003. Ce rapport penchait en faveur du dit système, une couverture maladie de base obligatoire gérée par la Sécurité sociale, puis une assurance maladie complémentaire de base, la MCB, gérée par les compagnies d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, et enfin, une couverture supplémentaire facultative. En mots simples, ils ont pensé à te facturer un supplément garniture à la pizza que tu connais. Ça crée un nouveau marché, en quelque sorte.
Mais le bilan de ces Puma et ces MUC,
c'est mitigé. Je t'ai raconté une bonne partie, pas tous, de ces médecins propres sur eux, sont tordus le nez à l'idée de récupérer les pauvres. Une enquête de Médecins du Monde qui s'appelait « Je ne m'occupe pas de ces patients », c'était le nom de l'enquête, a fait scandale en 2006. 14% des toubibs déclaraient refuser recevoir des patients bénéficiant de la CMU. Leur argument, refus ouvert de soigner ces patients au tarif conventionnel, sans dépassement d'honoraires comme la loi les y oblige. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, avait vu rouge et dans sa loi de 2009, la très discutée loi HPST pour Hôpital Patients Santé Territoire, met en garde contre la discrimination des patients bénéficiant de la CMU. Dans une autre étude de 2009, l'expérience a consisté à demander par téléphone un rendez-vous auprès de 466 spécialistes de secteur 2 en précisant bénéficier de la couverture CMUC. Et le taux de refus était nul chez les pneumologues et a atteint 41% chez les psychiatres, tandis que 22% des spécialistes de secteur 2 refusaient les assurances CMU, invoquant souvent des retards de paiement et une lourdeur administrative.
Mais cette loi contre les discriminations, elle a fonctionné ?
Je crois pas. La plupart... La population concernée est nombreuse, mais bon, rassure-toi, tous ces gens pèsent moins que notre première fortune nationale, Bernard Arnault, qui vient de doubler l'héritière Bettencourt. Bon, c'était à l'époque, en 2017, Madame Bettencourt. Bernard Arnault, en 2017, il avait 41 milliards de dollars de fortune personnelle. Alors je vois tes petits yeux torves que tu ne me crois pas. Regardons les chiffres de 2015 que j'ai bien galéré à trouver. L'AME, dont le plus grand nombre de bénéficiaires est en Guyane et en Île-de-France. Budget total, 678 millions d'euros, avec un montant total de fraude autour de 150 000 euros. La Puma est trop récente pour qu'on ait des chiffres, alors prenons la CMU de base. En 2015, ce sont 2,5 millions de bénéficiaires, dont 2,1 en métropole et 400 000 dans les dom-toms. Elle coûte 22,6 milliards. La CMUC, c'est 2,2 milliards. La CS, 287 millions. Total, 25,825 milliards. Le patrimoine de Bernard Arnault, et notre bienfaiteur à tous, est estimé à 37 milliards. Si Arnaud, qui a gagné ses sous, notamment en siphonnant de l'argent public, payait toute sa solidarité française pour une année avec un chèque, il resterait presque 14,5 milliards et il serait encore la quatrième fortune française.
Ouais, et si Liliane Bettencourt fait de même l'année suivante, Serge Dassault celle d'après, et François Pinault ensuite, il redeviendra premier.
Alors si Liliane Bettencourt refait ça maintenant qu'elle est décédée, alors elle est très forte, mais pour les autres, ça pourrait marcher. Serge Dassault, pareil, mais enfin, on pourrait prendre les nouveaux, les gros puissants de maintenant. N'empêche que les refus de soigner ces pauvres sont de plus en plus décomplexés. Récemment, en 2017, c'est 12 médecins ou dentistes qui avaient fait figurer pas de CMU ou pas d'AME sur des sites de prise de rendez-vous médicaux. Alors un collectif s'est fait un devoir de leur rappeler le serment qu'ils prêtent. Le serment, c'est « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. » Ainsi, Médecins du Monde, la FNARS, la Fédération des acteurs de solidarité, que tu connais bien, et les collectifs...
Qui s'appelle la FACE aujourd'hui,
la FACE.
Ouais, c'est ça.
Et le collectif interassociatif sur la santé, CISS, qui n'a pas changé de nom, je crois, un regroupement de 40 associations de patients, tout le monde a saisi le défenseur des droits et le conseil de l'ordre, n'exclut pas des poursuites disciplinaires. Si tu veux lire, c'est l'article L1110-3 du Code de la santé publique qui réglemente ça. Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Le site cmu.fr propose une page spécifique pour recouvrer ses droits en cas de problème.
Bon, en même temps, ce ne sont pas 12 brebis galeuses qui vont changer l'accès aux soins à l'échelle nationale.
Ils ne sont pas que 12, malheureusement. Et même si les médecins devenaient tous respectueux, ça ne résoudrait pas d'un coup, d'un baguette magique, tout, quoi. Il y a un problème plus large avec le non-recours. Au Dénor, l'Observatoire des non-recours aux droits et services indique qu'une proportion non négligeable de gens n'ont pas connaissance de leurs droits ou ne les comprennent même pas. Il faut dire que c'est coton, quand même, et je n'aborde même pas le fait que les plateformes téléphoniques censées informer sont prises en défaut. Une étude m'a particulièrement choqué. Celle conjointe de l'Institut national de la consommation et du Défenseur des droits en 2016. Des enquêteurs ont passé 1400 coups de fil à la Caisse nationale des allocs familiales, la CNAF, à Pôle emploi et à la CNAMTS, la Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés. Bilan, à la louche, au mieux dans un tiers des cas seulement, t'as ta réponse, le reste du temps, on te renvoie vers Internet. Seulement 16% des gens en France n'ont pas Internet, et c'est une bonne partie de la population la plus vulnérable. Il arrive même qu'on conseille à l'usager de se rendre dans un lieu d'accueil physique, sans que ne soit précisé sa localisation ou ses heures d'ouverture. qu'il devrait donc sans doute trouver sur Internet s'il l'avait, tu vois, et tu vois, bordel, quoi. Et je te parle même pas de la différence qu'il y a dans l'accueil et la qualité de réponse quand tu as un accent étranger. Si t'ajoutes à ça la complexité du système et le fait qu'on démultiplie le nombre d'interlocuteurs en morcelant les régimes, en diversifiant les caisses, en déléguant aux complémentaires, même Dédale ne sortirait pas du labyrinthe. On comprend bien que le premier malade venu se sente un peu à poil au milieu de l'avenue des Champs-Élysées. Un peu comme s'il était à poil au milieu des Champs-Élysées un soir de réveillon, cerné d'inconnus hostiles ou rigolards.
Alors, avec un régime pour tous et une caisse qui prend en charge à 100% de tout le monde, on torche le problème, n'est-ce pas ?
Ben, je crois bien. Oui, je dirais que oui.
Mais ça doit coûter bonbon quand même.
Franchement, je doute que ça coûte plus cher. Pour passer au 100% sécu, il faudrait certes augmenter les cotisations, mais en même temps, il n'y aurait plus de complémentaires santé à payer. J'ai beau chercher, je vois pas de raison économique qui pourrait justifier qu'on ne passe pas au 100% sécu. Ah, si. Éventuellement deux. Primo, la bobologie chère à François Fillon.
Mais la bobologie, tu veux dire quoi ? Que les gens vont sans arrêt chez le Toubib pour rien ?
Ouais, c'est le terme, tu sais, on en a parlé, utilisé par Fillon aux élections de 2000 d'avant. Là. Je crois que ça vient d'une BD de Claire Bretécher, cette histoire. C'est une façon de pointer du doigt ces andouilles de malades qui vont trop souvent chez le médecin, qui se gâtent de pilules, qui comme des bombes, et puis adorent se faire des radios de confort. Des radios de confort. Ça sent le mythe à plein nez et la fabrique de l'opinion, ça, dans le même style que l'immigré qui fraude les aides sociales et l'employé de voirie corse qui dort à l'ombre pendant son temps de travail, si tu veux. Catherine Lemorton, la présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée, n'a pas été dupe, dénonçant le 1er décembre 2016 dans l'Obs cette manière sournoise de rendre les assurés responsables du déficit de moyens de santé du système de santé. Les moyens du système de santé.
Et l'autre raison ?
Ben, secondo, la Sécu gérerait prétendument moins bien que les complémentaires, comme si une malédiction s'abattait sur elle, ou si les gens qui y travaillent bossaient particulièrement mal. Aucune raison que ce soit l'un ou l'autre. Regardons les données officielles disponibles. Un rapport de l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale des Affaires Sociales de 2013 indique que les coûts de gestion, c'est-à-dire ce qui sert à faire fonctionner la machine mais pas à soigner les gens, les coûts de gestion donc des régimes de sécurité sociale obligatoire s'élèvent pour 2011 à 3,7% du montant total des prestations totales versées. C'est pas beaucoup, hein. Sur 100 euros, t'as 3,70 pour la gestion. Si tu compares avec les complémentaires santé, je te l'ai dit tout à l'heure, mutuelle, assurance et prévoyance en vrac, leur gestion atteint en moyenne 22,5%. 6 fois plus.
Ouf, mais plutôt que de perdre des sous, on ferait même un sacré paquet d'économies. Comment s'explique la différence ?
À en croire la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques dans son rapport de 2016, près de la moitié des coûts de gestion sont consacrés à la conquête de nouveaux clients. On appelle ça les frais d'acquisition. Il faut faire de la pub, payer des commerciaux, etc. On a mis le tableau d'adresse là à disposition entre Institut de prévoyance mutuelle et Société d'assurance, les frais d'acquisition, d'administration et de gestion des sinistres.
Ok, écoute.
Donc toi, c'est jouable. Hein.
Je suis convaincu. La seconde raison de s'opposer au 100% sécu n'est donc pas valable. Bah, reste la première.
Ouais, bah elle tient pas non plus en fait. Si l'argument du 100% sécu égale consommation en hausse est vrai, alors nous devrions avoir un recours aux soins plus important pour les patients bénéficiant déjà de ce dispositif. Et ça tombe bien, on a un échantillon avec les bénéficiaires de la CMUC. Les études menées par Fonds CMU, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de financer, contrôler, organiser les dispositifs CMUC et ACS, démontrent que le comportement des bénéficiaires de la CMUC concernant le recours aux soins ne se distingue pas de celui des autres bénéficiaires du régime général.
Bah c'est réglé alors. Mais d'un autre côté, on entend souvent que si c'est vraiment grave, c'est couvert à 100% par la Sécu. Donc le reste, c'est de la médecine de luxe, non ?
On entend souvent ça, hein, de la part de ceux qui ne prennent pas d'assurance complémentaire ou chez les politiciens ultralibéraux qui aimeraient bien dérembourser tout un ensemble de soins et permettre aux privés de mettre la main sur ce marché. L'argument est généralement de moins rembourser les traitements destinés à des affections bénignes. Le problème, c'est qu'une affection bénigne, si elle n'est pas traitée, bah, il y aura souvent un problème plus grave qui coûtera bien plus cher. Le bénéfice même financier n'est donc pas certain. De plus, une même affection n'aura pas le même impact dans la vie de personnes différentes. Classer les maladies, c'est périlleux. Si t'as par exemple une rage de dents ou un mal de dos qui te cloue au lit, tu classes ça comment, toi ? Tu trouves qu'il faut prendre en charge le dentiste et le kiné ou
non ? Ben, je sais pas. D'ailleurs, c'est pris en charge comment, le dentiste ou le kiné, tiens ?
Ben, pour le dentiste, les consultations et les soins courants, c'est pareil que pour ton médecin traitant. Un tarif conventionnel et un taux de remboursement de 70%. Au-delà, ce sera des dépassements d'honoraires. Alors, ça se corse, comme on dit à Ajaccio, pour les prothèses dentaires et les soins d'orthodontie, car là aussi, il y a un tarif conventionnel et un taux de remboursement de 70%. Mais tout le monde est en honoraire libre. Autant dire que c'est la fête avec tire-lipin-pont sur le Chihuahua. De l'aveu même de l'assurance maladie, les remboursements sont très inférieurs à ce qui est réellement facturé aux malades. Les vautours sont gras. Hein. Le kiné, comme l'infirmier ou l'infirmière, l'orthophoniste, par exemple, ne fait pas partie de la même catégorie de pros, de professionnels. Il s'agit d'auxiliaires médicaux, dont le tarif conventionnel de remboursement dépend du type d'acte qu'ils réalisent. Pour un ou une kiné, selon les actes, c'est environ 17 euros, avec taux de remboursement de 60% en général. Par contre, note bien que dans le cas du kiné, par exemple, la prise en charge doit être suivie avec plusieurs séances, ce qui fait grimper la facture. Et parfois, il peut avoir tendance à éterniser la prise en charge alors que ce n'est pas nécessaire, ou bien prend plusieurs patients en même temps et les aligne avec une liste d'exercices à faire, en passant les voir quelques secondes tous les quarts d'heure, et pendant ce temps-là, la sécu, donc toi et moi, paye le lascar. Sache que, sauf exception prévue dans un texte réglementaire, texte non barbare de, si tu veux savoir, nomenclature générale des actes professionnels, qui permet une cotation des actes faits par les professionnels de santé en vue de leur tarification, la durée d'une séance de masso-kinésithérapie est de l'ordre de 30 minutes, et que pendant cette durée, le masseur-kinésithérapeute doit se consacrer exclusivement à son patient. S'il ne fait pas ça, il est hors clou pour un exercice conventionné. Alors c'est vrai que le temps passé avec toi ne veut pas dire non plus que le traitement appliqué sera efficace, mais bon, c'est déjà ça.
Attends. Tu veux dire que si une séance se résume à ce qu'il me laisse dans un coin avec un électrostimulateur musculaire qu'on peut trouver à la boutique téléachat au paiement 10 fois sans frais, je peux râler, mais comment alors?
Au téléboutique, déjà. Si les soins ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'un professionnel de santé, tu as plusieurs cravaches. À mon avis, la première cravache, elle est en flanelle, celle-là, consiste à trouver le courage d'en parler avec le kiné. Il est fort probable qu'il se vexe un peu, mais qu'ensuite, il change sa façon de faire. Et peut-être même que ce changement se répercutera positivement sur la prise en charge des suivants. Donc, c'est pas vain. Au pire, il t'invite à aller voir ailleurs et tu t'en porteras sans doute que mieux. Bon, deuxième cravache, celle en cuir. Avertis ton médecin des soins que tu as reçus. N'oublie pas que les auxiliaires médicaux travaillent sur prescription médicale. Ils ont donc tout intérêt à garder d'excellentes relations avec les médecins. Et ensuite, si rien ne bouge, tu passes au niveau supérieur, la cravache en fil de fer, le marty fouette. Hein, en te plaignant à la fois au conseil de l'ordre et à l'assurance maladie. Et là, ça a plus de dégâts. En revanche, pour les soins qui s'éternisent et les professionnels qui ajoutent toujours quelques séances alors que tu n'en as plus vraiment besoin, c'est plus compliqué. D'autant que si on cherche bien, on trouve toujours quelque chose à soigner, tu vois, redresser, rééduquer. Le héros de Jules Romain, Dr. Knock, dit bien que les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent.
Alors finalement, personne n'a vraiment intérêt à ce que j'aille mieux puisque je craque à chaque visite.
C'est l'une des problématiques du paiement à l'acte, en effet. On va chercher à augmenter le volume d'actes, le nombre de fois où tu vas recevoir le soin, en faisant traîner, et ça gonflera la facture. C'est un modèle très inflationniste.
Inflationniste?
Ouais, ça veut dire que ça conduit à une production abusive et croissante des soins. Inflationniste, c'est une définition plus technique en économie, mais j'utilise le sens commun du terme ici.
Il existe d'autres modèles que le paiement à l'acte?
Bah, t'as le paiement par capitation, par exemple, dans lequel le professionnel est payé pour s'occuper d'un nombre de patients définis, quels que soient les actes qu'il pratique. Cela se rapproche du salariat finalement, et puis c'est pas idiot du tout. Le problème qui va se poser est celui des déserts médicaux qu'on a déjà arpenté. Hein. Comment convaincre des médecins et des professionnels de santé d'aller s'installer dans des régions en pénurie de soignants? Une autre solution serait de mélanger un paiement par capitation et un paiement à l'acte, mais avec une plus faible rémunération de l'acte.
Ouais, mais à part toi, qui est-ce qui défend ça?
Et toi? Non. Okay. Bon, de fait, on est deux, et même une horde commence par deux personnes, donc blague à part, tu trouveras beaucoup de gens pour contester le paiement à l'acte, mais beaucoup moins pour faire des propositions concrètes pour s'en sortir.
Ce paiement à l'acte, il est réservé au secteur privé. À l'hôpital, il ne compte pas comme ça quand même, si?
Eh bien, c'est ce que tu vas voir au chapitre 8, mon ami.